Et aujourd'hui, pour cette première émission de septembre, un numéro tout entier consacré à Antoine Volodine. Les jeudis littéraires, aujourd'hui autour de la table, il y a Antoine Volodine. On va parler avec lui de son dernier livre publié aux éditions du Seuil et qui s'appelle Don Dog. On est aussi avec Jean-Didier Wagner, collaborateur du cahier livre de Libération, et avec Lionel Ruffel qui enseigne à l'université de Toulouse, qui dirige la revue Kaoit.com, qui est donc une revue littéraire sur internet et qui connaît bien l'œuvre de Volodine puisqu'il y consacre sa thèse qui est actuellement en cours de rédaction.
C'était au début d'une guerre, dit Don Dog tout à coup, comme s'il commençait à se souvenir de quelque chose. C'était au début de la première extermination des Ibures. Je ne suis pas sûr des dates et des détails. Dit toujours, allez, murmure Marconi pour lui-même. À une distance incalculable, les pompes de la mafia et un tambour chaman mêlent leur rythme obsédant. Gabriella Bruna était alors une très jeune femme, marmonne où se souvient Don Dog. Elle marchait le long d'un mur d'usine. La guerre venait de commencer. C'était l'été. Il faisait un temps superbe.
Voilà, c'était un extrait de Don Dog, lu par Antoine Volodine. On peut juste signaler, Antoine Volodine, que cette musique qu'on entend, ce sont les suites Volodine, signées Denis Fragerman, qui sont donc des suites écrites après lecture de certains de vos textes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, il faudrait le demander à Denis Fragerman, qui a écrit ces suites Volodine, qui les a fabriquées il y a déjà plusieurs années, après... Avoir lu mes textes, voilà, c'est sous cette inspiration-là qu'il a composé cette musique.
Alors donc, Don Dog, c'est votre 13e livre qui sort aujourd'hui, et là, on pourrait dire la particularité ou l'une des particularités de votre travail et qui fait que vous êtes très différent de beaucoup de vos contemporains, c'est que, comment dire, on sait que vous construisez une œuvre au fond quand on vous suit et quand on vous lit depuis le début, ce qui est mon cas. Et je veux dire que vous n'ajoutez pas les romans les uns aux autres, que vous ne les juxtaposez pas, mais que vous avez un projet plus vaste qui n'est d'ailleurs pas toujours facile à comprendre pour votre lecture. Hein, on n'a pas, pour votre lecteur, on n'a pas d'architecture très claire en tête. Ce qu'on sait, c'est que manifestement il y en a une, que vous travaillez à une continuité ou en tout cas à établir une sorte de cohérence même après coup entre vos livres. Alors c'est toujours difficile d'entrer d'emblée dans votre univers, c'est pour ça que la lecture c'était une bonne idée pour essayer de donner l'idée de quelque chose à des gens qui ne vous auraient jamais lu. Je me disais qu'on pouvait commencer par vos personnages, par exemple. Il y a beaucoup de personnages qu'on retrouve d'un roman à l'autre, ce qui donne un des effets de cohérence et de continuité entre vos livres, qui ont souvent des noms bifides à consonances russes et germaniques. D'ailleurs, depuis peu, maintenant, il y a des consonances asiatiques et américaines. Et là, dans Dundalk, ce sont des gens nouveaux, je crois. En tout cas, je crois. Ce sont donc Jesse Lou, Tony Bronx, Gulmus Korsakov et Janotchkis.
Jesse Lou apparaît déjà dans...
C'est vrai ?
Oui, il apparaît dans le précédent, dans Des Anges Mineurs.
Et donc, le personnage d'Undog les énumère au début, et on a l'impression que c'est comme une sorte de programme du livre. Il faudra retrouver et développer l'histoire de chacun de ces noms pour que le roman se fasse.
Oui, alors plusieurs questions en même temps. C'est vrai que c'est la 13e leçon de post-exotisme dans cette continuité qui a commencé il y a 15 ans, avec Biographie comparée de Jorian Murgrave. Et la cohérence existe non pas parce que les livres se suivent, mais parce que les livres, d'une certaine manière, appartiennent à la même bibliothèque imaginaire, la même bibliothèque écrite en langue française ou traduite en langue française, mais venue d'une culture étrangère. Et ce que je donne au public, ce sont des livres qui sont extraits de cette bibliothèque. Alors ils ne forment pas une suite, effectivement, mais la cohérence vient du fait que toute parole, toute fiction trouvant sa place dans ces livres renvoie à une même culture. Une culture politique, idéologique, artistique, qui lit non pas des livres, mais ceux qui prennent la parole dans les livres, les écrivains ou ceux qui disent les livres, puisque plutôt que écrire des livres, je pense que, et là on le voit bien dans Dundalk, il ne s'agit pas d'écrivains de livres à proprement parler, mais de quelqu'un qui dit, qui prononce, qui murmure, qui chuchote un livre.
Oui, parce que, on va y revenir, mais le post-exotisme, qui est moins apparent d'ailleurs dans ce livre-là, ce sont des livres qui émergent d'un univers concentrationnaire ou carcéral. C'est ça, votre culture étrangère?
Oui, il y a toujours cette obsession de l'univers carcéral, dans la mesure où, par hypothèse, en dehors de ce que l'on trouve dans chaque livre, il y a cette parole qui est née d'une sorte de collectif de prisonniers qui s'échangent des livres, qui se racontent des livres de cellule en cellule, en vivant leur incarcération à perpétuité et en l'agrémentant, si j'ose dire, par des narrations, des récits de rêves et des fictions.
Jean-Yves Wagner.
Oui, je pense aussi que c'est une question aussi de poétique, c'est-à-dire que dans le post-exotisme, on dit leçon 11, en fait, il y a tout un univers poétique qui est mis en place, hein, qui existait déjà auparavant, qui existait dans Lisbonne Dernière Marche, mais qui est là à l'occasion d'une fiction un peu plus théorisée, c'est-à-dire tout l'univers des romances, des chagas, des naras, etc., et toute la poétique qui est derrière. Et paradoxalement...
C'était systématisé, au fond, c'était explicité.
Oui, c'était aussi ironique de la part de Volodine, ouais. Parce que c'était dit leçon 11, en fait. Mais en même temps... Ici, on a un roman. En fait, il est sous-titré roman, et pas romance. Pourquoi, en fait?
Oui, ça ne faisait pas partie, pour être plus explicite, ouais. Ça ne faisait pas partie de...
Si, ça doit faire partie
de la typologie post-exotisme, le roman.
Oui, enfin, dans cette bibliothèque du post-exotisme, dont sont extraits quelques livres que je signe et dont je suis porte-parole, d'une certaine manière, eh bien, il y a aussi des formes particulières. Les naras, les chagas, les romances... Mais ce jeu avec la forme ne doit pas nuire à la diffusion de mes histoires. De ça, je ne tiens pas à rester marginal pour des raisons uniquement formalistes. Et c'est pourquoi le sous-titre de genre roman qui apparaît ici. D'ailleurs, c'est déjà trouvé dans plusieurs de mes livres, dans la majorité de mes livres. Et d'autre part, Finalement, je ne trahis pas du tout le post-exotisme dans la mesure où derrière ce roman, il y a toutes les caractéristiques de ce que je décris comme romance dans le post-exotisme en 10 leçons.
Oui, il y a la mention du roman. On voit plus clairement quand on reçoit le livre et qu'on est un petit peu habitué aux derniers ouvrages d'Antoine Volodine. On voit la signature claire Antoine Volodine, sans jeu sur les pages de garde avec les hétéronymes. Donc, non seulement la mention générique n'est pas troublée, mais la mention auctoriale non plus. Et finalement, le livre est beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire que la plupart des autres livres publiés par Antoine Volodine. Ça peut surprendre. Le livre va d'un point A à un point B avec des flashbacks, des souvenirs, des plongées dans la mémoire. L'énonciation est assez simple. On colle à Don Dog, à l'énonciation de Don Dog. Donc, est-ce que c'était une volonté? On est dans le romanesque, la vengeance, l'amour, des thèmes très romanesques. Est-ce que c'était une volonté de faire plus simple pour Don Dog que pour d'autres ouvrages? Moins sophistiqué.
Moins sophistiqué, oui, peut-être. Ce qu'il y a, c'est que les jeux que vous avez décrits ne pouvaient être limités qu'à quelques ouvrages. Je ne pouvais pas toucher systématiquement tous les livres que je publierai, que j'écrirai, que je composerai. Et là, je me suis trouvé avec un sujet que je voulais traiter avec une sorte de sérénité romanesque, une continuité, une limpidité, qui fait que on retrouve, d'une certaine manière, tout ce qui est traditionnel dans le roman. Mais je ne sais pas si c'est un roman traditionnel ou un roman classique ou académique. Enfin, je crois que ces étiquettes ne conviennent pas. Cela dit, j'ai tout à fait conscience que en me lançant dans l'écriture de ce livre, je ne jouais plus comme dans les non pas dans le livre précédent, mais dans les livres qui avaient précédé, que en particulier ceux que j'ai publiés aux éditions Gallimard. Je ne jouais plus avec certaines formes extrêmes. J'étais allé explorer de façon un peu extrémiste les formes romanesques. Là, je me retrouve avec effectivement quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel dans dans l'organisation de la fiction.
Et vous dites que vous vouliez raconter quelque chose qui demandait une plus grande linéarité. C'était quoi ce que vous vouliez raconter?
Ce que je voulais raconter, c'était ce que je voulais mettre en place, c'était un discours autour de la parole d'un seul personnage, la plongée dans les souvenirs et les inventions d'un seul personnage. Et ce que je ne voulais pas faire, et que j'ai fait dans d'autres livres, c'était plaquer plusieurs paroles, plusieurs origines de fiction, et les imbriquer l'une dans l'autre. Là, on se retrouve avec des flashbacks, avec des plongées dans un passé autobiographique et dans un passé pseudo-autobiographique de Gabriela Bruna, de la grand-mère de Don Dog, mais on est toujours ramené à la parole de Don Dog. Et ce que je voulais faire, c'était laisser cette parole débuter et aller jusqu'à son extinction à la fin du livre, sans la parasiter par des interventions extérieures.
Donc, le monologue de Don Dog, qui apparaît à la fois comme tête de chapitre, comme œuvre à l'intérieur de ce chapitre, et comme votre projet final pour tout le roman.
Oui.
C'est un monologue, finalement. Il raconte...
On est assez proche d'un monologue, oui.
Ouais.
Oui. Un monologue organisé avec des interventions de personnages inventés par Don Dog qui prennent la parole à ce moment-là et qui
Alors donc j'en reviens à ma première question, les noms propres, au fond, les noms de personnages. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que le nom propre est une espèce de matrice à partir de quoi vous écrivez l'histoire?
Certainement, le nom propre est extrêmement important pour sauter, pour pénétrer à l'intérieur du personnage. C'est quelque chose de déclencheur. à partir du moment où le personnage est nommé et où je... C'est une clé que j'utilise très facilement pour entrer à l'intérieur du personnage. C'est tout à fait nécessaire. Je ne peux pas écrire une histoire et changer le nom. Oui.
D'accord.
Oui. Et le nom, là, est double. C'est Don Dog, mais c'est aussi le double qui intervient au fil du livre, qui est Shloom. Et Shloom est un nom de personnage qui me permet de voyager chamaniquement à l'intérieur de mes personnages. Le nom est très important, c'est vrai. Mmh. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de sonorités russes et que, en fait, si on regarde dans l'ensemble des livres, des 13 livres, la présence russe est beaucoup moins importante que ce qu'on pense. C'est vrai qu'il y a des sonorités russes, mais c'est des transcriptions en russe d'autres provenances, et en particulier dans les Anges mineurs, et où ici, on est dans le monde turco-mongol, le monde de l'Asie centrale, ou du Caucase, mais pas du tout dans le monde russe.
Lionel Ruffel.
Oui, toujours à propos des noms propres, mais pour l'intégrer dans un système un peu plus vaste, Antoine Volodin a écrit un texte qui s'appelle « Écrire en français une langue étrangère », qui est un texte passionnant sur sa manière de concevoir les livres, mais aussi de les penser. Et il parle de la constitution des noms propres, qui peut surprendre, qui peut sembler anarchique pour certains. En fait, c'est tout le temps un système très réfléchi, il nous en parlera peut-être plus avant, hybride, comme vous l'avez dit, qui associe deux territorialités. Et dans le même temps, il joue de la même manière sur les espaces, il les désincarne de tout référent bien identifié. Et sur les temps aussi, il parle de temps relatif. 2000 ans avant la révolution mondiale, où on a tout un tas de temps relatifs.
Là, il y a des mentions bizarres des années 50.
Oui, et tout ceci pour parvenir à produire une littérature extra-nationale et extra-territoriale dans le but de produire une littérature du XXe siècle. C'est-à-dire que le seul référent, c'est la mémoire collective du XXe siècle. Et donc, il parle de cette littérature comme d'une littérature exilée. Alors, si vous pouvez nous parler un peu plus de ce terme de littérature exilée.
Oui, d'abord, dans Écrire en français une littérature étrangère, j'expliquais...
C'est sorti où, ça?
J'ose le dire, à Hong Kong.
Ah, d'accord.
en chinois.
Il lit le chinois, alors, Ruffel?
Couramment.
D'accord.
Voilà, alors, effectivement, j'explique là-dedans, mais je l'expliquais aussi dans d'autres textes. Un de mes soucis, c'est de ne pas rattacher ce que j'écris, ni mes personnages, ni mes fictions, ni le background culturel que l'on peut lire à travers les pages, de ne pas rattacher cela à une culture nationale définie. Pas du tout une culture française, mais pas du tout non plus une culture russe ou une culture tibétaine ou asiatique. Mon principal souci, c'est toujours d'empêcher la relation à une culture nationale précise pour lutter, parce que c'est aussi un de mes soucis, pour promouvoir dans le texte et dans le mécanisme du texte l'internationalisme, le refus de l'ethnocentrisme, le refus de toute pensée non seulement patriotarde mais simplement nationale, hein. Les noms servent à casser ces références.
Oui.
Pour le lecteur français, ils sont évidemment déconcertants, musicaux, enfin non pas tout à fait prononçables, mais ils sont déconcertants parce que l'association entre prénom et nom est tout à fait bizarre. Mais il serait déconcertant pour tout autre lecteur de tout autre pays.
D'accord.
Voilà.
Ah oui.
Donc c'est un soin que je porte dans la nomination de mes personnages.
Jean-Didier Wagner.
Il y a tout un art du décalage en fait chez Antoine Bolding, et on le voit bien, il y a une belle métaphore en fait du livre à l'intérieur du premier chapitre. Lorsqu'on arrive dans la cité avec un C majuscule, Dundog arrive libéré des camps, et il se retrouve dans une sorte de, comment dire, d'un urbanisme complètement chaotique dans lequel il n'y a plus coïncidence entre les escaliers, etc. Et en fait, tout le livre est en décalage comme ça, c'est-à-dire il y aura un décalage au niveau des identités, est-ce Schum, est-ce Dundog, il y aura un décalage au niveau de l'autobiographie. Hein, il y aura un décalage au niveau.
Est-ce que Bolloguier raconte sa vie ou pas?
Non, je pense pas. Je pense que je n'irai pas jusque là.
Il y a des récits d'enfants.
Il y a des prélèvements.
Enfants, très,
des,
très nouveau voilà, dans le temps de Bolloguier, dont on ne peut pas penser.
L'enfance dans les premiers est présente hein, constamment.
Ouais.
Mais il y a un décalage constant. C'est, au niveau du rapport entre ce qu'il raconte, qui est quelque chose qui est une scène d'horreur, c'est-à-dire extermination, et en même temps la traduction en féerie. Entre le réel et l'imaginaire, etc. Et il y a cette volonté de décalage est justement le fait d'éviter les démons de l'identité et les démons, je dirais, du sujet, en fait. Mm-hmm. Alors, ce qui fait que, automatiquement, toute la critique a vu dans Bolloguier, justement, ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, quelque chose qui est le formalisme de Bolloguier. Mais en fait, ce formalisme-là n'est qu'ancillaire par rapport à son monde poétique. En fait, c'est beaucoup plus un écrivain de l'imaginaire qu'un écrivain de l'après, si on pourrait appeler nouveau roman, etc. Mmh. Et là, dans Dundog, en fait, on en arrive à une sorte de... Comment dire, Flaubert disait une phrase, je ne me rappelle plus exactement, mais il disait que l'art allait vers l'abstraction et vers une sorte d'épure totale. Et là, c'est totalement un récit pratiquement linéaire, quoi. C'est une descente, c'est un voyage au bout de la mort, en fait. Voilà.
Pour aller dans votre sens, je me disais moi que c'est un problème classique de la littérature et du romanesque, que de poser la question de la fiction et de la réalité, du rêve et de la réalité, de la frontière. Au fond, vous travaillez sur la question
de la frontière, et que vous avez
élaboré quelque chose d'à la fois technique et pas technique, qui est d'introduire le chamanisme, qui vous permet de refuser cette frontière et de pouvoir travailler.
Oui, le chamanisme.
C'est une revendication à la fois, technique et poétique.
Oui, du chamanisme qui n'est pas repris dans mes livres à la manière des anthropologues. Hein. Du chamanisme, je retiens surtout cet état particulier de la conscience qui fait que on a une perception de la réalité qui fait part égale entre rêve et concret et réel. Et j'utilise cela pour rendre de la fiction agréable, pour faire du beau, tout simplement, hein, pour essayer de m'amuser avec l'imaginaire. Et la technique chamanique n'est rien d'autre qu'une plongée un peu intense dans un monde poétique, c'est tout. C'est pas je fais intervenir beaucoup depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis beaucoup de livres, je fais intervenir des chamans. Bon, c'est de la même manière que je fais intervenir des écrivains, ce sont des créateurs, des inventeurs de monde que je suis pour rendre le livre agréable et visitable.
Oui, pour continuer sur le chamanisme, cette référence n'est pas étonnante en soi, car il y a chez Bolloguier toujours un souci de l'efficace de la parole, de l'efficace de la fiction. Alors l'efficace de la parole, on le voyait beaucoup dans les romans interrogatoires, dans Les singes, Le port intérieur, où la parole pouvait transformer l'autre, pouvait faire du personnage, de l'autre son personnage. Le chamanisme, c'est, on sent vite, intuitivement, qu'il y a une relation à la fiction. Mais la fiction littéraire, comme le dit un philosophe actuel, c'est une fantaisie ludique, alors que le chamanisme, c'est une fantaisie sérieuse. Il y a une vraie transformation. Or, ce n'est pas étonnant, parce qu'il y a une volonté de transformer aussi le lecteur, d'avoir créer des compétences de lecteurs, différents lecteurs. Peut-être Antoine Bolloguier peut nous en parler. Il y a des lecteurs amis, des lecteurs de librairie, des lecteurs ennemis. Donc il y a toujours à certains niveaux, une volonté de manipulation du lecteur.
Non, la première chose que ce qu'essaient de faire mes écrivains chamans, mes personnages qui sont qui sont pas de grandioses chamanes, mais de mais des chamanes de troisième zone.
Ouais.
Oui,
qui ont beaucoup de mal. Quand même à faire lever le jour.
Voilà. Bah oui. Oui, certes, mais leur premier souci, ça n'est pas de manipuler celui qui les écoute. C'est de se manipuler eux-mêmes, de manipuler leur passé, de manipuler leur mémoire pour réussir à supporter le passé, pour réussir à supporter le présent, leur situation présente, qui est le résultat d'un passé. Et c'est pour ça qu'ils sont si peu bouddhistes, même s'il y a beaucoup de choses liées au bouddhisme dans ce que j'écris, en particulier la marche après le décès, le voyage dans l'après-décès, dans la mort. En fait, ce qu'ils font, c'est travailler sur le passé pour modifier leur présent. Or, ils ne peuvent pas. C'est une illusion, ils le savent. Et la seule chose qu'ils peuvent modifier, c'est le récit de leur passé. Mm-hmm. Et donc le récit de leur présent, et c'est une sorte de retrait permanent du monde, de distance permanente qui est creusée par la parole entre celui qui dit et le monde qu'il voit.
Oui. Il y a rapport à la mémoire dans celui-là, c'est important, je vous le dis, mais la plus importante encore, à un certain moment vous dites que la mémoire passe par la bouche. Et Shloum, au moment du massacre, et qu'il est l'un des témoins, dit en fait, j'en parlerai quand je l'aurai totalement oublié. Comment on doit l'entendre, en fait?
Oui, c'est d'ailleurs tout le livre tourne autour de ça. C'est-à-dire, Don Dog veut parler de choses qu'il a oubliées, et il veut, en même temps qu'il en parle, ne pas retrouver ses souvenirs parce qu'ils sont horribles. Et donc, il invente d'autres souvenirs horribles, mais qui sont en décalage avec son véritable passé, avec les archives, ses archives personnelles.
C'est pas la première fois que vous travaillez sur ce type de choses.
C'est une façon
que vous avez de faire des récits, parce que je me souviens, il y avait la mémoire clandestine dans Lisbonne dernière marche, qui était donc, il fallait que ce soit codé, puisque ça allait être lu, donc de toute façon, il fallait que ce soit une mémoire, codée, c'était des textes à clé. Il y avait la mémoire de l'homme lobotomisé dans le texte. Il dit très joliment, Don Dog, j'ai été blessé à la conscience. Et donc voilà, il écrit avec ce qui lui reste. C'est toujours ça votre...
Voilà, c'est ça. Il écrit avec ce qui lui reste, mais il ne lui reste rien. Et le fait de continuer à exister, le fait de survivre, ne peut se réaliser que par la parole. Et cette parole est une invention, et il ne peut pas imaginer de se référer à son véritable passé. Ce blocage, cette interdiction d'un chemin simple et assumé vers le passé, c'est ce qui fait fonctionner beaucoup de mes livres, qui se situent toujours à un moment où le personnage n'a finalement rien d'autre à faire que de ruminer sur son passé, puisque il est dans une situation soit d'incarcération, soit de mort. Enfin, il a traversé son décès, et il ne lui reste plus aucun avenir. Le présent n'existe pas, et c'est toujours sur le passé que se construisent ces livres. Et c'est un passé qui ne peut exister que par une parole, et que par une parole mensongère.
On parlait de chamanisme tout à l'heure. Peut-être, on avait dit que vous pourriez peut-être lire quelque chose, la supplication au mélèze. Ça vous paraît possible?
De supplier un mélèze?
Oui.
Bien sûr.
Le mélèze va plier.
Est-ce que je devrais m'arrêter quand vous me le dites?
Oui. Parce que c'est un peu long. Quand vous le sentirez. Et si vous ne le sentez pas, je vous arrêterai.
Ok. J'abattis mes poings sur ce qui restait du mélèze mort. Le bois ne résonnait pas. J'entrepris néanmoins de tambouriner et de marmonner des nasales magiques. Il faisait très froid, il y avait du givre autour de moi. La lampe qui éclairait la pelouse et les fils de fer lançait des lueurs d'hiver. Je me mis à taper de plus belle. Si quelqu'un m'avait demandé ce qui m'arrivait, j'aurais répondu que je cherchais à me réchauffer, mais en réalité, je priais. Je n'ai jamais reçu la moindre éducation religieuse, et je ne crois à rien, et j'avais oublié le nom des dieux auxquels les blattes et les chamans s'adressent en cas de détresse, mais il me semble que c'était une prière qui serpentait hors de ma bouche. Puisque ce n'était pas une lamentation, en tout cas, ce devait être une prière. « Maître Mélèze, chantonnais-je, bouche presque close, maître, par cette souche que je heurte en chantonnant dans la nuit encore noire, par ce tronc mutilé qui continue à exister dans la terre, comme si les haches et la mort n'avaient eu sur toi aucune action néfaste, maître, par ta chair boisée qui refuse de se rendre, par cet aubier et ses racines qui refusent de se rendre et de pourrir, et aussi par le premier cercle des clôtures, et par la deuxième enceinte barbelée, et par ces touffes d'herbe que ce matin le givre brûle, par les nuages que le vent dans les hauteurs rudoie, par les premières neiges qu'ils annoncent, je te supplie, maître Mélèze, maître, et tes compères, les 127 corbeaux, je vous supplie, par ces étendues de moins en moins vertes qui agonisent entre les baraquements, par cette terre qui est sonore sous nos pieds, car maintenant chaque nuit, le gel de nouveau la pétrifie, par cette terre qui nous nourrit, toi et moi, et nous supporte, toi mort plus que mort, et moi insane plus qu'insane, et déjà mort, par l'écorce de tes congénères qui embaument au petit matin quand l'escouade franchit les barrières, par le fil hirsute des barrières contre lequel parfois se déchirent des mains impatientes, je te supplie, maître Mélèze, je te supplie, par les prairies ignorées et les trouées que la forêt autorise entre ses murailles, par les champs de betteraves et par les champs de pommes de terre que la vermine, grâce à nos dirigeants, dédaigne, par les infinitudes que, tout-puissant, tu administres d'un point cardinal à l'autre, maître Mélèze, que tu administres avec tes 11 fois 11 sèves et avec les forces du vent et de la révolution mondiale, par l'odeur des champignons qui poussent sous le plancher surélevé des baraquements, par cette odeur de plein automne qui sinue maintenant à travers les collines et les bois.
On s'arrête là ? D'accord. Sur ce que vous avez appelé ces morceaux de bravoure du livre, dont vous dites que finalement ce sont des passages ironiques.
Pas ironique, mais assez drôle. Le premier, la maîtresse, est très drôle parce qu'on voit la haine d'un enfant qui se travaille sur plusieurs pages. Donc, la haine de l'enfant contre sa maîtresse qu'il a accusée injustement. La supplication Mélèze reste dans le vide. Donc, elle est très très longue et puis elle n'arrive jamais. Et puis, le monologue de Don Dog quelque chose d'amusant parce qu'il reprend une structure grammaticale bien connue en France, mais donc il est assez amusant. Donc il y a trois passages comme ça qui.
Sans parler du fait que Dundog écrit Dundog m'a tué.
Voilà,
oui,
ouais,
bien sûr, oui.
Mais c'est la structure.
Dundog est un hymne des trinchères.
Voilà, hymne des trinchères. Donc il y a quand même, comme toujours chez Volodine, ça a souvent été remarqué, hein, c'est pas une nouveauté, une auto-parodie, un dénigrement, une ironie sur soi-même qui est typique de toute façon des sous-hommes, hein, qui se considèrent, quand ils sont blattes, moins que blattes, ils se considèrent toujours moins que ce qu'ils sont.
Qui est typique des sous-hommes dans le système de Volodine, vous voulez dire
Bien sûr, évidemment. On parle de Volodine ici, ou de... Non. Oui, enfin, donc, Dundog ne déroge pas la règle, il y a des moments assez amusants qui... Bon, c'est un peu le système des contraires. On tombe dans la noirceur la plus totale, puis on est relevé par une sorte de parodie un peu carnavalesque.
Voilà. Y a un grand personnage féminin, et je me disais en y réfléchissant que c'est souvent le cas. Je me souvenais de Lisbonne Dernière Marge, où il y a
Ingrid Fogel.
Voilà, Ingrid Fogel, ou Catalina Raspe. Mmh. C'est ça?
Oui, mais il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de personnages féminins de premier plan.
Voilà, ce qui est très rare, je trouve, dans la production romanesque aujourd'hui. En tout cas, le regard que vous avez sur ces femmes est très rare. Et que souvent, vous adoptez le point de vue de la femme. Comme dans Lisbonne Dernière Marge, non?
Oui, bien sûr, oui. Moi, je tiens énormément à mettre au premier plan des personnages féminins avec leurs caractéristiques propres au post-exotisme, c'est-à-dire ce sont des femmes de courage, des femmes militantes, des femmes qui sont également des magiciennes, des chamanes souvent, qui essaient de chamaniser dans le monde, mais qui essaient aussi, qui ont essayé de transformer le monde. Et dans Des Anges Mineurs, il y avait beaucoup de vieilles femmes immortelles qui étaient la représentation vieillie de toutes ces femmes que j'ai mises en scène depuis le début, et qui sont des femmes qui sont toujours comme Jessilo, comme Gabriela Bruna dans Dundog, lié à une épopée de la Révolution mondiale.
Quand je me dis Dog, j'ai déjà vu ça, Dog, et puis j'ai regardé dans Lisbonne Dernière Marge, en fait c'est Ingrid Fogel qui appelle le policier chargé de l'arrêter, elle lui dit Dog, mon cher Dog.
Mon Dog, oui. Ah,
le chien aussi,
oui, c'est vrai.
Je me suis dit qu'il y avait déjà eu un Dog.
Il y avait déjà un Dog. Dundog, en fait, apparaît, ce nom apparaît, mais pas avec le même personnage, dans Des Anges Mineurs. Donc je l'ai repris comme Jessilo. Jessilo était dans Des Anges Mineurs une des très vieilles grand-mères révolutionnaires qui essayait de fusiller le narrateur principal, Bill Shalman.
Qui se décomposait en se multipliant.
D'une certaine manière, oui, si vous voulez.
Et comment vous raconteriez ce personnage de Gabriela Bruna?
C'est un personnage central dans Dundog, de même que c'est la grand-mère de Dundog, mais c'est une femme qui se multiplie dans l'histoire, qui est d'une part la grand-mère de Dundog et d'autre part la mère du double de Dundog, qui est Shloom.
Je suis pas sûr qu'on vous suive toujours. Hein, oui. La mère du double, déjà, là, vous voyez, on a
la
du
mère
mal.
Du double, oui.
Oui, se dédouble, en fait, d'accord. Dans ce roman. Ouais,
oui, oui, d'accord. Je m'exprime mal, mais c'est pour ça que j'écris des livres. Et pour moi, c'est une figure de qui traverse le XXe siècle. C'est une figure de femme courageuse, de femme intelligente, forte, qui connaît la tragédie dès la Première Guerre mondiale, puisque dans le livre on raconte comment elle est violée dans les premiers jours de la guerre de 14, la Première Guerre mondiale, et ensuite qui traverse de façon magique, évidemment, le XXe siècle, et qui a participé, on s'en rend compte, à la construction de l'Union soviétique, qui a joué un rôle dans le système de répression des années 30 stalinien, et qui a fui la répression stalinienne pour créer une commune idéaliste et révolutionnaire pure et dure, magique, sur les hauts plateaux de Mongolie, à côté du lac Hofsgöl, que connaît bien Jean-Didier Wagner.
Pour y être allé en téléphérique.
Oui, oui. Voilà. Et c'est et cette femme, on la retrouve vieillie sous un autre nom dans les camps, où elle va servir du thé à Dondog. C'est un personnage fort, intègre, que j'ai essayé de mettre en place.
Oui, il y a souvent aussi des parentages, je dirais, le père et la mère, mais aussi des rapports avanculaires, un petit peu comme dans l'ethnologie, c'est-à-dire qu'il y a des parents nourriciers d'une certaine façon et des parents adoptifs. Et là, on a l'impression que Gabriela Bruna va se dédoubler. Elle va être à la fois la mère de Shloum, la grand-mère de Dondog, mais Dondog va accueillir Shloum à sa mort, mais à la fin, Dondog dira peut-être que son identité Dondog est encore elle-même un mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Tous les personnages vont se dédoubler à l'intérieur du roman. Et ce qui est étonnant, c'est que le lecteur n'emporte jamais le deuil. Généralement, dans des choses très complexes, en un moment, on se sent perdu. Et là, il y a une sorte de glissement, un petit peu, lorsque dans le même état que le rêve, en fait. C'est-à-dire on va passer d'une scène rêvée, je dirais, que tout le monde rêve, hein, d'une scène assez bizarre à une autre scène, avec la continuité du rêve et avec la même logique. C'est-à-dire que le lecteur traverse tout ça sans jamais avoir le sentiment d'être perdu, sans jamais avoir le sentiment... comment dire, d'être privé d'éléments de référence, et c'est un véritable voyage, en fait. Le livre se lit pratiquement en 3 heures et en une traite, et ça, c'est assez étonnant d'être arrivé, je dirais, à ce travail d'épure, en fait, parce que c'est tout un travail sur l'écriture avec une langue superbe dans lequel je dirais il n'y a rien à enlever ni même à rajouter, tout est là, en fait. Et ça, c'est une très belle construction.
Oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jean-Didier, donc je vais difficilement dire autre chose, sinon que c'est exactement l'impression de lecture que j'ai eue, une grande fluidité, on en parlait au tout début, et pourtant on sait très bien qu'il y a des aberrations ou des choses illogiques dans les logiques rationnelles, et de fait cela procède comme un rêve, mais je crois en grande part, et peut-être Antoine Golodine peut nous parler de la construction, comment il l'a fait, que cela repose sur ce système des doubles, et que une très grande partie, la continuité du livre repose sur cette aberration logique qu'est le double.
Oui.
Voilà.
Il y a un moment où le héros parle.
Oui, j'ajoute.
On avait le droit d'ajouter quelque chose. Donc j'ajoute. Non, le rapport au golem, par exemple. Mais à un certain moment, le héros dit c'est pas exactement un golem, etc. Mais ça va aussi dans la continuité de ce que dit Ruffel sur le double à l'intérieur du roman.
Vous avez compris l'ajout, parce que moi j'ai pas compris.
Non, l'intervention de Jean-Didier Wagner a compliqué beaucoup l'histoire des doubles.
Je crois que je fais un golem après.
Non, ce qui permet le glissement logique d'une scène à l'autre, et lorsque tout à l'heure Lionel Ruffel parlait d'aberration, je crois que il y a un élément logique essentiel. À partir du moment où on l'accepte, on a beaucoup de facilité à suivre mes histoires. C'est que mourir n'est pas le moment où tout s'arrête. Les personnages subissent la mort, meurent. Mais continue à parler, continue à raconter leurs histoires, continue à subir d'autres morts, à subir une vengeance. C'est le cas de celui sur lequel Dondog va s'acharner dans le livre, qui est Gulmus Korsakov, qui est mort plusieurs fois. C'est lui qui a violé Gabriela Bruna. Il est immédiatement puni. Il sera puni une nouvelle fois dans les années 30 quand Gabriela Bruna va le retrouver. Et il va être magiquement entraîné sur les hauts plateaux mongols, où il va subir une longue, très longue punition. ça les fait rire, c'est pas drôle du tout.
Ouais, c'est
à dire, il va être enfermé dans une fosse creusée dans la terre, et tous les jours, il va être arrosé d'excréments pendant un temps infini, en fait. Et c'est ce personnage-là que Dundalk va retrouver et sur lequel il va exercer concrètement sa pulsion de vengeance, non pas particulièrement à l'égard de Gulmuz Korsakov, mais il veut se venger de l'ensemble des malheurs qu'ont subi les Ibures et peut-être plus généralement que l'humanité au XXe siècle a subi. Alors finalement, ce Gulmuz Korsakov subit de nombreuses morts, de nombreuses vengeances, et si on accepte le fonctionnement de ces morts successives, si on l'accepte comme un élément logique, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'aberration.
Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la politique ? Du rapport que vous entretenez avec la politique, c'est vous qui avez prononcé le mot, hein, tout à l'heure, vous avez dit c'est une culture, c'est partie de la culture, de ma culture, ou de celle du post-exotisme, je sais pas. C'est un rapport étrange, c'est un rapport à la fois, je dirais, on déclare qu'on est désenchanté, on déclare que la révolution est finie, et en même temps, c'est tellement central, tellement important, tellement essentiel, tellement structurant, au fond, qu'on n'y croit pas tout à fait que ce soit fini, et qu'on n'y croit plus.
Oui, les personnages que je mets en scène depuis le début se situent dans une révolution, dans une post-révolution, dans un moment de révolution ratée, de toute révolution, mais ils ne faiblissent pas dans leur certitude que la révolution était nécessaire, d'une part, elle a raté, mais elle était nécessaire, et qu'elle est toujours nécessaire dans leur présent, dans leur aujourd'hui. Ils se situent dans un moment de leur existence où seule la parole peut faire vivre cette révolution. La rumination sur est passée. Mais à aucun moment ils ne remettent en cause l'élan, le pur élan révolutionnaire qui a toujours été à la base de toutes les théories, de toutes les utopies,
mais
de toutes les révolutions.
Mais pour franchir un pas de plus, on ne peut pas dire la politique, elle serait littéraire aussi. Ça veut dire la volonté de faire une littérature étrangère. Ça veut dire étrangère à tout ce qui se produit, de pas être corrompu par la production qui se fait par ailleurs, d'être coupé, etc. C'est-à-dire d'avoir un propos aussi sur ce qui s'écrit aujourd'hui, et si radical au fond qu'il en soit, aussi révolutionnaire spécifiquement, c'est-à-dire littérairement.
Non, enfin personnellement, je respecte beaucoup trop l'idée de révolution pour imaginer que la littérature en fasse partie et puisse jouer un rôle quelconque dans cette histoire. Alors, mes personnages se situent pas du tout dans le débat littéraire.
Mais je parlais pas de vos personnages.
Mais moi, je parle de mes personnages. D'accord. Voilà, justement, parce que de mes narrateurs, de ceux qui prennent la parole. Et que je défends ici, si vous voulez. Et ce que je voulais rappeler, c'est que on a parlé tout à l'heure d'une littérature étrangère, d'une bibliothèque, d'une littérature étrangère écrite par un collectif de prisonniers. Ces prisonniers sont des prisonniers politiques dans cette hypothèse littéraire. Ce sont des prisonniers politiques incarcérés à perpétuité pour avoir voulu changer le monde de façon violente, et ces prisonniers, à travers leurs personnages, à travers leur rumination et à travers la parole que je représente ici, revendiquent totalement la justesse de cette lutte qu'ils ont.
Ils ne la regrettent pas,
ils ne sont pas du tout désabusés, mais ils ne renient rien.
D'accord.
Oui, ça plusieurs choses, mais on ne peut pas ne pas penser, quand Antoine Volodine parle de ces collectifs de prisonniers, ainsi de suite, aux prisonniers de la fraction armée rouge à Mannheim, qui, de manière tragique, sont allés, se sont suicidés, c'est la version officielle en tout cas, mais qui continuaient,
ont été suicidés,
mais qui ont continué à se faire passer des mots, à essayer de se faire, leur premier souci c'était de pouvoir se faire passer des mots, rentrer en contact les uns avec les autres, et ce contact, dans l'œuvre volodinienne, est essentiel. Quand on est dans les vrais livres carcéraux, comme le son, le post-exotisme, on entend le bruit des tuyaux, il y a tout un tas de codes qui sont employé pour entrer en communication. Alors c'est peut-être un peu moins présent dans Dundog, mais c'est quelque chose de très fort.
Et puis, mais il y a toujours des bruits à travers les murs.
Voilà, oui. Voilà, il y a toujours un code à entendre. Et puis la seule chose que je mettrai là, que je voudrais dire, c'est que c'est une œuvre qui évoque la révolution, mais qui n'est pas marquée par le ressentiment. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi la particularité de Volodine, c'est d'être toujours autant dans la révolution sans être dans le ressentiment. C'est face à la révolution,
le
ressentiment politique dans toute une génération. Bon, et j'ai pas beaucoup de questions.
Peut-être que Volodine écrit parce qu'il n'a pas fait la révolution alors.
Oh, Volodine, sa vie, on la connaît pas bien.
C'est-à-dire qu'entre à ce moment, il dit, je crois qu'entre mes personnages et moi-même, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc,
il dit pas toujours ça, quoi. C'est compliqué.
Si, c'est très difficile.
Justement, en fait, je dis toujours.
Il dit toujours ça.
Il
ne sait rien de sa biographie et il n'y en parlera jamais et il ne répondra pas aux questions, je dirais, gens de lettres, en fait.
Voilà. Non, mais enfin, ne jouons pas trop là-dessus. Ne jouons pas trop là-dessus. Ouais, ouais. Simplement, ma biographie personnelle n'a rien à voir avec le post-exotisme, n'a rien à voir avec ce projet, et ça fait partie d'un domaine privé qui n'a aucun intérêt littéraire, qui n'a rien à voir avec le fait de porter la parole d'écrivains post-exotiques, voilà.
Mais vous qui avez travaillé sur Volodine, ce concept de littérature étrangère, comment vous le comprenez?
Alors, de plusieurs manières. Dans l'œuvre post-exotique, il y a tout un renvoi au discours révolutionnaire, à la littérature révolutionnaire qui existait. Et je crois que la littérature étrangère, c'est avant tout une littérature internationale, comme il y a eu une révolution internationale, une révolution mondiale, comme on a été internationaliste. Politiquement, il l'est littérairement. Il y a la volonté d'être absolument en dehors des racines et des filiations trop marquées. Je crois que ça, c'est...
Par exemple, dans Lisbonne, il y avait la littérature des poubelles. C'était intéressant parce que ça fait partie de ce discours réflexif sur la littérature.
C'est la littérature des poubelles, le post-exotisme sont assez proches. On pourrait évoquer aussi la littérature mineure, qui n'est pas de Volodine, mais on pourrait évoquer ça, de Deleuze et Guattari. On pourrait la littérature extrêmement populaire. Et aussi, pour finir juste sur la littérature étrangère, je crois qu'il faut revenir sur cette idée de littérature du XXe siècle. Volodine est un auteur qui propose une littérature qui est face au XXe siècle. Ce XXe siècle qu'il conçoit comme Lénine, fait de guerre, des révolutions, et auquel il adjoint les camps, de manière de plus en plus appuyée, les camps. Je crois que c'est ce siècle, selon ces trois fractures, que révèle l'œuvre post-exotique par la fiction. Voilà. Je sais pas si Antoine est d'accord.
Je voulais lire un tout petit passage qui m'avait bien rire. Qui est ceci. Au cours de cet entretien, Poufkine ne maîtrise ni son émotion ni son discours. Il est intimidé par ce magnétophone qui représente pour lui un contact, même indirect, avec l'univers des médias. Il est bouleversé par le caractère irréversible des propos qu'il livre au ruban magnétique. Il est impressionné par l'étudiante aussi, et c'est pourquoi ses phrases tremblent et ne s'achèvent pas toujours. Il passe du coq à l'âne, il s'égare dans des considérations confuses. En tant qu'interview, c'est l'unique qu'il ait jamais accordé, mais c'est sans doute la pire. Il donne peu d'interviews. Oui. Ce pauvre qui n'est pas Dundog, je ne sais plus.
Si, c'est un
alias de Dundog.
Encore un
alias,
oui.
Qui c'est théâtral, en fait.
Oui, ne compliquons pas les choses.
Non,
c'est pas. Tout est très simple, en fait. Tout est très simple.
Je pense que tout est très simple, bien sûr. Simplement, il y a des moments où, comme dans les moments d'enfance, on joue à être un autre, mais tout en sachant très bien qui on est. Enfin, il n'y a pas de voilà, cette phrase est effectivement la pire.
Est-ce qu'on peut terminer? Il nous reste une minute. Est-ce que vous liriez une toute petite chose, une minute, celle-là? Voilà. Allez-y.
Je n'ai pas tellement envie de parler de ça, dis-je. Ce n'est donc pas mort en toi non plus, fit Shloum. Non, dis-je. Tu vois, dit Shloum. Nous restâmes encore plusieurs minutes dans l'espace noir, assis pas très loin l'un de l'autre, face à face, sans rien dire. Ou alors, reprit Shloum en concluant à haute voix une réflexion menée d'abord dans le silence, il faudrait le raconter comme une féerie. Raconte tout ça comme une féerie. Ouf, une féerie, dis-je. Comme si c'était ailleurs, dit Shloum, comme si ça s'était produit dans un autre monde. Oh, je fais souvent ça, dis-je. C'est une technique qui m'est familière, dit Don Dog, comme si c'était arrivé dans une autre civilisation, sur une planète comparable mais différente. Les auditeurs n'y voient que du feu, ils estiment qu'il s'agit de science-fiction ou de pure foutaise.
Réalisé par Anne Franchini, à la prise de son Vincent René, coordination Geneviève Méric, documentation Marie Gobin. C'est une émission de Pascal Casanova. Dire qu'on a donc parlé du livre de Antoine Volodine qui s'appelle Don Dog et qui est publié aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, on parlera de la vie de famille avec Richard Morgiève et Grégoire Bouillet. Voilà, dans quelques instants après la poésie, Francesca Piolo, La vie comme elle va.
Poésie sur parole, cette semaine, Paul Éluard.
Novembre 1936. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes. Mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordures. Il plie au ras du sol des palais sans cervelle. On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb, sauf à leur haine de ce qui brille, sauf à leur céder la place. Parler du ciel, le ciel se vide. L'automne nous importe peu. Nos maîtres ont tapé du pied. Nous avons oublié l'automne et nous oublierons nos maîtres. Vilain baisse. Océan fait d'une goutte d'eau sauvée, d'un seul diamant cultivé au grand jour. Madrid, ville habituelle à ceux qui ont souffert de cet épouvantable bien qui nie être en exemple, qui ont souffert de la misère indispensable à l'éclat de ce bien. Que la bouche remonte vers sa vérité, souffle rare, sourire comme une chaîne brisée. Que l'homme délivré de son passé absurde dresse devant son frère un visage semblable et donne à la raison des ailes vagabondes. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre. Les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence, à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtre, des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Le front vitre, comme font les veilleurs de chagrin. Ciel dont j'étais passé la nuit, pleine toute petite, dans mes mains ouvertes, dans leur double horizon, inerte, indifférent. Le front vitre, comme font les veilleurs de chagrin. Je te cherche, par-delà l'attente, par-delà moi-même, et je ne sais plus, tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Ni cri de plomb, ni justice de plume, ni vivante d'amour, ni morte de désir. Elle est tranquille, indifférente. Elle est fière d'être facile. Les grimaces sont dans les yeux des autres, ceux qui la remuent. Elle ne peut pas être seule. Elle se couronne d'oubli. Et sa beauté couvre les heures qu'il faut pour n'être plus personne. Elle va partout, fredonnant, chanson monotone, inutile, la forme de son visage.
Jean-Luc de Batisse a dit des poèmes de Paul Éluard, choisis dans Cours naturel et L'amour, la poésie, publiés aux éditions Gallimard. Poésie sur parole, André Velter, Jean-Baptiste Parra, Fabien Capel, Vanessa Nadjar.